l'investiture mardi dernier à l'Assemblée nationale du gouvernement Bruno Tshibala. Invasion massive mercredi matin à la prison centrale de Matkala à Kinshasa. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans la tribune de la presse. Nous avons autour de cette table Pius Roland Romain. Il est journaliste à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir RTG en sigle et mettant à Kinshasa. Bonsoir Pius Roland Romain.
Bonsoir Guimete.
Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM et mettant à Kinshasa. Bonsoir Dominique Dinanga.
Bonsoir Guy, très content de me retrouver dans ce studio.
Et Ernest Mokouli, journaliste correspondant de l'AFP à Kisangani, province de la Tchopo. Bonsoir Ernest Mokouli.
Bonsoir Guy, bonsoir Dominique, bonsoir aussi à Pius.
Bonsoir, bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. Comment les journaux de Kinshasa ont exploité cette actualité? Pour le savoir, nous allons suivre cette revue de presse que nous propose Berry Franklin Luchaka.
Bonsoir Guy et bonsoir à tous. La presse de cette semaine s'est largement focalisée sur l'évasion de plusieurs détenus à la prison centrale de Makala, l'investiture du gouvernement Tshibala par l'Assemblée nationale et la commémoration du 20e anniversaire de la libération du Zaïre par l'AFDL. Parlant de l'évasion de plusieurs détenus à la prison de Makala survenue dans les premières heures de la journée du mercredi 17 mai, Le Potentiel a parlé jeudi d'une évasion menée avec une facilité inouïe. Sur la reconstitution des fait cependant, le confrère relaye des sources du ministère de la Justice qui ont déclaré que des gens se réclamant proches du gourou de la secte politico-religieuse Bundu dia Congo ont pris d'assaut la prison de Makala pour libérer leur leader emprisonné dans ce centre pénitentiaire, écrit le quotidien dans ses colonnes. Une version des faits confirmée par l'Avenir qui précise que la plupart des prisonniers emblématiques en dehors de Nemwandansemi sont toujours dans le centre. Quant au bilan de cette attaque, le Phare, qui cite des sources indépendantes et des résidents du secteur de la prison centrale de Makala, a avancé le chiffre de plus de 1000 personnes qui ont péri. Le quotidien reconnaît cependant que ce bilan reste controversé, tant les sources officielles gardent le mutisme au sujet des morts. Par ailleurs, le journal estime que cette évasion massive des prisonniers à Makala pose de nouveau le problème de la sécurité des installations dans ces centres pénitentiaires. Cette évasion a en effet déversé des prisonniers dangereux dans les rues de Kinshasa, c'est alarmé Forum des As. Et au sujet de la traque de ces évadés, Politico.cd a indiqué qu'une forte tension a régné dans les rues des communes environnant la prison de Makala, où les militaires et policiers ont été déployés en masse pour retrouver les évadés. Parlons maintenant de l'investiture du gouvernement Bruno Tshibala par l'Assemblée nationale. Le site d'information en ligne actualité.cd a constaté que c'était une investiture émaillée d'incidents du début jusqu'à la clôture de la cérémonie. Parmi ces incidents, note le site d'information, la sortie de l'hémicycle et au son de vuvuzela des députés du rassemblement durant la séance plénière, frustrés par le rejet de la motion incidentielle de leurs collègues qui appelait à ne pas investir le gouvernement Tshibala. Voilà pourquoi le Phare a remarqué que Bruno Tshibala a été investi dans un concert de vuvuzela. L'Avenir, qui commente cette actualité, estime pourtant que l'opposant, entre guillemets, a séduit les élus à travers un programme ambitieux qu'il a déroulé mardi, peu avant le débat général qui a précédé son investiture. Un programme dont le premier chantier sera les élections, précise l'Avenir. Au sujet justement de l'organisation des élections, Zoumeko fait savoir que ce nouveau gouvernement a l'obligation de mobiliser 526 millions de dollars américains pour financer les trois premiers scrutins prévus à la fin de l'année en cours. Terminons enfin par l'anniversaire de la libération de la RDC du régime du feu le maréchal Mobutu. Le Potentiel affirme qu'il s'agit d'une libération virtuelle. Selon le confrère, les libérateurs, qui n'étaient qu'un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes, pour reprendre l'expression des musées, se sont mués en dictateurs, explique le confrère. De la bouche du porte-parole de l'UDPS, Forum des As a appris que le 17 mai, bien qu'historique dans la mémoire collective des Congolais, lègue cependant une mauvaise leçon au parti de la 10e rue. Le confrère constate que le 17 mai est loin d'être pour l'UDPS une libération.
Merci Berry Franklin Louchaka. Un commentaire Pius Roland, Romain, journaliste à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir RTGA, émettant à Kinshasa. Et vous avez suivi dans cette revue que Berry Franklin Louchaka vient de nous proposer. Mercredi 17 mai dernier, la RDC a commémoré l'accession au pouvoir politique de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle. Et 20 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement?
Ouais, ce que je peux dire, j'ai retenu qu'il y a un journal qui a traité Mouzé des dictateurs, des conglomérats d'aventuriers. Oui,
c'était un conglomérat. Qui a repris les propos de Mouzé. C'est Mouzé, oui, qui avait dit que ses alliés étaient un conglomérat, en fait, que l'AFDL était un conglomérat d'aventuriers.
Tout à fait, mais lui n'a jamais été dictateur, puisque le 17 mai, tout le monde se souvient, avant le 17 mai, il y a eu installation démocratique à main levée dans les différentes provinces des responsables, beaucoup plus de l'UDPS. Ils n'ont pas été élus aux élections classiques, mais ils ont été choisis par le peuple. Je m'en souviens qu'il y avait le feu ambassadeur Mwepu, il y avait l'actuel vice-premier ministre Emmanuel Ramazani Shadary dans le Maniema, il y avait Yagi Sitolo dans la province orientale. C'était une expression démocratique.
Il y avait Lubaya au Kasaï occidental.
Tout à fait. Et mais lorsque vous déboulonnez une dictature pendant 32 ans, il est tout à fait logique et normal qu'on essaie un peu de recadrer ou d'avoir la maîtrise de l'appareil de l'État. Ce n'est pas sitôt. Vous venez avec les alliés et sitôt on vous demande de le faire partir pour organiser les élections, alors que ceux qui ont été aux mamelles de la dictature de Mobutu n'ont jamais voulu les élections. Et moi je me dis, qu'est-ce qui reste de l'AFDEL 20 ans après les acquis de l'AFDEL? Mais moi et toi, nous sommes à la radio, nous sommes en train de parler, nous avons la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Moi et toi, nous avons plusieurs coupures de presse, ce qui n'a pas été le cas. Il y a plusieurs stations de radio, ce qui n'a pas été le cas. Nous avons deux législatures élues à l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été le cas. Nous avons les gouverneurs. Donc, le bilan n'est pas aussi négatif, n'est pas aussi positif. C'est un parcours, il faut reconnaître que nous sommes la rusée de l'Occident, c'est dont je n'accepte jamais.
Merci Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM, émettant à Kinshasa. L'AFDL arrive et suscite beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, 20 ans après, peut-on dire que ces espoirs ont été satisfaits?
D'entrée de jeu, je vous dirais que le bilan est largement négatif. Dans la mesure où, quand l'AFDL est arrivé, c'était une lueur d'espoir, comme vous veniez de le souligner. C'était une lueur d'espoir pour la population fatiguée de 32 ans de règne dictatorial du maréchal Mobutu. Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé, c'était au moment où les Congolais étaient même prêts à signer un pacte avec le diable pourvu qu'il les aide à chasser Mobutu, qui avait tout détruit, qui avait détruit les systèmes judiciaires, Mobutu qui avait détruit l'économie de ces pays. Tout le monde était devenu millionnaire.
Et donc l'AFDL était un mal nécessaire.
L'AFDL était à ce moment-là porteur d'espoir pour ces Congolais. Il fallait nécessairement quelqu'un qui puisse susciter cet espoir-là perdu pendant plus de 32 ans. Malheureusement, quand Laurent Désiré Kabila arrive, on retombe dans le même système et parfois on redouble encore cela. Aujourd'hui, 20 ans après, je ne sais pas pourquoi on peut encore appeler cette date une date de libération. Je ne vois pas en quoi ça ressemble à une libération.
Qui s'affirme que l'un des acquis de cette libération, c'est la liberté d'expression.
Effectivement, il y a des petites avancées, bien sûr, parce que il y a aujourd'hui beaucoup de médias, vous en avez aujourd'hui une cinquantaine. Ils libéralisent bien sûr les secteurs médiatiques, mais dans quelles conditions travaillent ces médias, ça c'était un point à part. Mais il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement les secteurs de liberté de la presse, parce qu'il n'en existe même pas, je vais le démontrer au cours de cette émission, mais sur le plan sécuritaire. Laurent Désiré Kabila qui arrive, et une année après, c'est une autre rébellion, parce qu'il manquait des stratégies. Il a négocié avec les alliés, et une fois arrivé, il n'a pas respecté les engagements qui étaient d'ailleurs de trop avec ses alliés. Il ne les a pas respectés. Merci. Conséquence, les mêmes qu'ils ont soutenus sont revenus en 1998. Et qu'est-ce qu'il avait changé? Laurent Désiré Kabila qui arrive, il y a l'espoir avec la monnaie qui avait perdu sa valeur. Il vient avec le franc congolais. Aujourd'hui, où en sommes-nous 20 ans après?
Merci.
Donc il y a beaucoup de choses à voir à manger Dinanga. Dans cette histoire.
Merci Dominique Dinanga. Ernest Mokoulou, journaliste et correspondant de l'AFP à Kisangani, province de la Tchopo. La chute de la ville de Kisangani avait sonné l'éclat du régime du maréchal Mobutu. Certains experts ont même affirmé que la prise de Kisangani avait déterminé la suite des événements. Quand vous interrogez les Bohomais aujourd'hui, quelle est leur perception sur les acquis de l'action de l'AFDEL?
Merci Guimaté. Kisangani, comme vous l'avez dit, c'est ici où on avait chanté avancé, quand Mouzé avait harangué la foule au stade Lumumba, les confrères a soulevé, et c'est là où on avait élu par acclamation, bien sûr, le gouverneur, l'ancien député
Yagistolo.
La perception des gens ici à Kisangani, bon, vous savez, nous sommes en train de vivre quand même ces changements, 20 ans après, mais l'évolution du changement est en train de prendre une direction contraire, une direction opposée à cette hier d'espoir qui a gagné les esprits des Bohomais, des habitants de l'ancienne province orientale de l'époque, vu les ratés sur le plan des élections, vu les guerres qui ne se terminent toujours pas, vu le mouvement de rébellion, des mouvements armés qui ne cessent de se créer, et tout ça, ça fait beaucoup de questionnements dans les têtes des Bohomais.
Merci. Nous allons aborder notre premier thème de ce soir. Investiture mardi dernier à l'Assemblée nationale du gouvernement Bruno Tshibala sur les 337 députés présents dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Les 336 ont voté pour. Un seul s'est abstenu. Le gouvernement Tshibala a donc été investi mardi dernier dans la soirée. C'était en l'absence des députés du Rassemblement, fidèles au tandem Félix Tshisekedi et Pierre Loubi. Cette investiture est intervenue après la présentation du programme et les débats qui s'en est suivi. Que doit-on retenir de ces programmes d'action gouvernementale présentés par Bruno Tshibala à l'Assemblée nationale? Michel Kifinangoï, notre permanent à l'Assemblée nationale, nous en donne les grandes lignes.
C'est dans une salle de congrès archicomble que le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté le programme d'action de son gouvernement. Un programme qui s'articule autour de quatre priorités, telles que retenues par l'accord de la Saint-Sylvestre. Il s'agit pour Bruno Tshibala de l'organisation des élections dans les délais convenus, la stabilisation et la relance de l'économie nationale, l'amélioration des conditions de vie de la population, ainsi que la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens. En ce qui concerne l'organisation des élections d'ici fin 2017, Bruno Tshibala a promis d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de l'histoire du pays. À propos de la stabilisation et de la relance de l'économie nationale, le Premier ministre entend initier plusieurs actions pour notamment relancer la production locale et améliorer le climat des affaires. Quant à l'amélioration des conditions de vie de la population, Bruno Tshibala dit se réserver d'avancer des promesses fallacieuses et non réalisables. Il invite donc le peuple à un peu plus de sacrifices pour faire sortir le pays de cette crise. Au plan sécuritaire, le Premier ministre s'engage à mener des actions pour restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans le Kasaï, le Tanganyika et dans d'autres coins du pays.
Merci Michel Kifinangoï, Pius Roland Romain, journaliste à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir RDGA à Emetan à Kinshasa. Investiture du gouvernement Tshibala sur fond des contestations des députés du Rassemblement. Il y a même le quotidien Le Potentiel qui renchérit en disant, comme pour punir l'opposition, le signal de la télévision nationale RTNC qui retransmettait en direct l'événement a été coupé.
Bon, écoutez, je vais répondre un tout petit peu à Dominique. Qu'est-ce qui reste des acquis de Mouzé? Vous venez de le dire, à l'Assemblée nationale, il y a eu investiture sur fond des tensions de l'opposition, alors que 20 ans avant, ça n'existait pas, nous étions dans une assemblée monocolore, donc oui, alors que vous m'avez posé cette question, qu'est-ce qui reste des acquis de la révolution de l'AFDEL? La réponse est là, à l'Assemblée nationale, il y a eu investiture du Premier ministre, sur 500 députés, il y a eu 337 qui ont pris part au vote, 336 ont voté, oui, et un seul s'est abstenu. Les autres qui sont partis, ils ont été à l'Assemblée nationale, ils ont préparé un coup depuis l'annonce de la présentation du programme du Premier ministre. Ils ont amené les trompettes qui ont battu tambour battant en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde, qu'on appelle Vuvuzela. Vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Aucun député n'a été inquiété. C'est parmi les acquis de la révolution du 17 mai. Je suis en train de répondre sur ce que Dominique Dinanga dit. Le bilan est largement négatif, alors que à l'Assemblée nationale, nous assistons à ce spectacle démocratique. Vous avez compris? Alors, okay, s'il faudrait
c'est,
que
j'entre... C'est un signe, n'est-ce pas, qu'il y a une certaine démocratie dans ces pays?
Pas une certaine démocratie.
Il y a la démocratie dans ces pays.
Aucun pays en Afrique ne peut être démocratique et ce qui se passe.
Mais au-delà de tout ça, lorsque quelqu'un investi oui. sur fond des contestations, vous ne pensez pas que cela annonce la couleur? Vous ne pensez pas que c'est un mauvais signe?
Non, même au ciel, Dieu a été contesté. Où est-ce que vous allez trouver l'unanimité? Même au ciel, Dieu a été contesté. C'est la présence du diable sur la terre. Qui vous dit que celui qui viendra après Bruno Tshibala aura l'unanimité de tout le monde? C'est ça la démocratie, c'est ça le jeu démocratique.
Merci Dinanga Dominique, journaliste à la radio Top Congo FM, mettant à Kinshasa. Tout en soutenant Bruno Tshibala, certains parlementaires lui ont conseillé de travailler, tout en tenant compte, n'est-ce pas, des desiderata exprimés par les rassemblements en vue d'une cohésion nationale. Est-ce qu'il pourra y parvenir?
Merci, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais aussi répondre à mon cher ami Pius Roland. Je vais démontrer en quelques lignes que le bilan est largement négatif parce qu'il est en train de se glorifier aujourd'hui de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On sait comment ça se déroule. Je vais donner en grande ligne donc le point qui démontre aujourd'hui que le bilan est largement négatif s'il peut se glorifier avec ce qui se passe aujourd'hui. Quelles sont les similarités donc entre le pouvoir de Mobutu, que nous avons décrié, dont nous avons décrié...
Dominique,
je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question.
Est-ce qu'on peut évoluer? On peut évoluer dans le débat.
Voilà.
Il s'agit ici de l'investiture du gouvernement Tshibala.
Merci beaucoup.
Sur fond des contestations.
Le gouvernement, on devait s'y attendre. On devait s'y attendre parce que nous sommes d'abord mal partis. Nous sommes partis d'abord, il faut rappeler d'abord le contexte dans lequel est arrivé le gouvernement Tshibala qui vient remplacer celui de Sami Badibanga qui n'a fait que 3 mois avec les mêmes missions d'ailleurs. Ça c'est une chose vraiment inadmissible. En l'espace de 3 mois, vous avez deux premiers ministres qui ont les mêmes missions, une période un peu semblable à celle de Mobutu. Si nous sommes arrivés au dialogue, c'est parce qu'il y a un pouvoir qui a manifestement refusé d'organiser les élections dans ces pays dans les délais constitutionnels. C'est parce qu'il y a eu un groupe d'individus qui veulent s'éterniser au pouvoir et ils cherchent par tous les moyens, parce que le diable est prêt à tout donner pourvu qu'il ait toujours son pouvoir. Voilà, c'est comme ça que nous sommes arrivés à ces dialogues. D'où est issu le gouvernement Bruno Tshibala? Nous arrivons à la CENCO, il y a des principes bien établis entre le rassemblement, la majorité et le Front pour le respect de la Constitution. On se convient sur cette histoire de désignation du Premier ministre. L'accord est bien clair. Il dit que le Premier ministre doit provenir du rassemblement, donc de l'opposition, qui n'a pas signé l'accord du 18 octobre, l'accord bien sûr de la Cité de l'Union africaine. Est-ce que ces points devaient faire objet des discussions lors des arrangements particuliers? Arrivé à cette époque, nous allons passer au moins 3 mois comme ça à discuter sur quelque chose qui est vraiment évidente. Nous discutons sur les évidences.
Voilà. Aujourd'hui, on discute sur les évidences. L'évidence aussi, c'est le fait que le gouvernement Tshibala a été investi. Il a présenté un programme, n'est-ce pas, axé sur 4 points, notamment l'organisation des élections dans les délais convenus. Est-ce que vous pensez que cette promesse sera tenue?
Je vais sûrement en train de répondre à la question sur les contestations que nous avons vues au sein de l'hémicycle. C'était pour vous dire que c'était quelque chose vraiment attendu. Aujourd'hui, quelles sont les missions assignées au gouvernement Bruno Tshibala? Ce sont, entre autres, l'organisation des élections transparentes, crédibles, apaisées dans les délais convenus dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y a la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens. Il y a l'arrêt de la dégradation de la situation économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Il vient dans un contexte, un décor déjà planté pour l'aider à bien échouer. Nous sommes dans quel contexte aujourd'hui? La situation sécuritaire est à déplorer dans le Kasaï. Nous sommes dans un contexte où il y a un flou sur même la fin de l'enrôlement qui a été amorcé par la CENI. Nous sommes dans un contexte où le franc congolais est en train de perdre sa valeur.
Merci.
Et avec ça, pour combien de temps? Aujourd'hui, les budgets n'ont même pas encore.
On va revenir.
Voilà.
Ernest Mokoulou, journaliste correspondant de l'AFP à Kisangani, province de la Kiopo. Vous venez suivre Pius, vous venez suivre Dominique Dinanga, qui lui estime que Tshibala arrive dans un contexte qui va l'aider à échouer. Il a notamment évoqué les contextes économiques difficiles dans lesquels le pays se trouve.
Oui, je pense que Dominique a tout à fait raison. Les contextes, l'environnement dans lequel Bino Tshibala a accepté à être premier ministre n'est pas différent à celui de son prédécesseur, bien que on s'étonne un peu du traitement que ses ex-collègues de l'opposition lui ont réservé. Ça nous pousse un peu à beaucoup de questionnements. Pourquoi est-ce que quand on a lors de l'investiture de Sami Badibanga, on n'a pas assisté à cette scène. C'est-à-dire, la situation, elle s'empire davantage. Sur l'élément, l'accord cadre, l'accord de Saint-Sylvestre serait le meilleur, on ne peut pas assister à ce scénario-là. Et aussi, quand tu dis les délais convenus, mais il n'a pas été précis. Les délais convenus dans quel contexte? Les délais qui seront convenus, c'est les délais qui était contenu dans l'accord de Saint-Sylvestre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été si précis? Non, nous allons, moi, Bino Tshibala, je promets au peuple congolais, je vais organiser les élections selon les délais convenus dans l'accord du 31 décembre. Il aussi demande à la population de se serrer la ceinture. Mais il aurait peut-être dû être le premier à donner l'exemple que non, moi, avec mon gouvernement, voilà, nous allons serrer la ceinture, toutes les institutions qui doivent baisser soit moitié ou bien les un tiers de leurs dépenses, en commençant par le sommet de l'État jusqu'au niveau des assemblées provinciales et autres services, afin de chercher comment il peut trouver de l'argent pour organiser les élections. Mais lorsqu'on reste un peu comme ça, et c'est comme l'impression que Bino Tshibala n'a pas le contrôle de la machine.
Merci.
Et Bino Tshibala, bon, il essaie d'accomplir la mission de son prédécesseur. Mais il perd de plus en plus sa casquette de l'opposant.
Merci,
en écoutant son discours.
Merci Ernest. Pius Roland Romain, vous venez suivre Ernest Mokouli et Dominique Dinanga. Est-ce qu'ils n'ont pas raison lorsqu'ils évoquent, n'est-ce pas, l'environnement difficile dans lequel Bino Tshibala accède au pouvoir? Vous pensez qu'il a assez d'atouts pour relever, n'est-ce pas, les défis qui sont devant lui avec cet environnement difficile dans lequel le pays se trouve actuellement?
Oui, je m'en vais d'abord répondre à Dominique sur certains éléments qu'il a évoqués. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ces événements. Lorsqu'il parle de l'accord de la CENCO, moi, personnellement, j'ai toujours dit que c'est un accord suicidaire. Pourquoi je le dis, c'est un accord suicidaire? Puisque dans le chef du chef de l'État qui avait confié la mission aux évêques, c'était pour que ceux qui n'ont pas participé à la Cité de l'Union africaine viennent à poser leur signature sur l'accord du 18 octobre.
Parlons actuellement de Tshibala qui vient d'être investi. Est-ce que vous pensez que,
mais oui,
compte tenu du contexte dans lequel nous trouvons actuellement, on parle, n'est-ce pas, de la chute des cours des matières premières qui ont un impact néfaste, n'est-ce pas, sur l'économie congolaise, et c'est à ce moment-là que le Premier ministre arrive avec beaucoup de promesses, et il promet même qu'il va stabiliser l'économie du pays. Quels sont les atouts, à votre avis, les atouts que lui peut détenir aujourd'hui pour essayer de relancer, de stabiliser cette économie congolaise?
Il faudrait que les Congolais cessent d'abord de se faire la guerre pour rien. Vous venez de le dire ici, que suite à la chute de la matière première, la situation économique est difficile. J'aurais cru entendre que le pouvoir de Kinshasa a bloqué les minerais pour que Tshibala ne fasse pas ceci. C'est une situation mondiale qu'il faudrait faire face à faire. Il faudrait que toutes les intelligences qui sont dans la classe politique aident la République démocratique du Congo. C'est un gouvernement qui a une mission précise. Laquelle mission ? Laquelle mission ? C'est d'organiser les élections. Lesquelles élections ? Un groupe ne veut pas y aller. Puisque, au départ, ce groupe avait refusé les deux calendriers qui ont été présentés par le fait Abbé Malou Malou. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il est là, c'est le premier ministre congolais, il est le dernier porte-parole du rassemblement du vivant d'Étienne Tshisekedi, c'est un membre de l'UDPS, un combattant acharné, depuis la naissance, depuis la création de l'UDPS le 15 février 1982, donnant la chance à Bruno Tshibala de relever les défis. Lequel défi ? Il faudrait qu'il stabilise le cadre macroéconomique. C'est là où je m'en vais encore dire, décrier la problématique des Congolais dans le chef de raisonnement. Lorsque Matata Mponyo disait qu'il faut aller maîtriser les cadres macroéconomiques, les gens ne comprenaient pas. Non, est-ce qu'on va manger le cadre macroéconomique ? Aujourd'hui, les dollars quittent de 90 à 140, puisqu'il y a une fluctuation de la monnaie, la situation économique ne marche pas. Merci. On revient encore pour dire qu'il faut stabiliser le cadre macroéconomique. Moi, je me dis, tous les Congolais doivent soutenir ceux qui sont dans l'opposition. La République démocratique du Congo, c'est leur pays, qu'ils cessent de mettre les pots de banane entre le pied de Bruno Tshibala.
Merci Pius. Dominique Dinanga, donnons la chance à Bruno Tshibala pour qu'il puisse relever les défis, comme le demande Pius Roland Romain.
Si nous sommes en train de faire toutes ces observations, c'est parce que nous ne voulons pas que la population soit surprise à un certain moment. Aujourd'hui, il est grand temps que la population soit déjà préparée moralement qu'il n'y aura pas élection en décembre 2017. Il faut dire la vérité à la population. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas parler parce que on vous a donné le pouvoir comme en Afrique. Le pouvoir est très bon en Afrique.
Dominique, vous pensez qu'il est impossible d'organiser les élections au mois de décembre 2017 ?
Nanga l'a dit. Corné Nanga l'a dit.
Il a dit quoi exactement ?
Corné Nanga l'a dit. Il a dit qu'il y a deux possibilités. Il y a la première possibilité, aller aux élections sans le Kassai, ou plutôt reporter ces élections, attendre qu'il y ait enrôlement au Kassai, et là il faudra attendre que la situation sécuritaire puisse se stabiliser. On connaît d'où vient l'insécurité au Kassai. On ne doit pas se voiler les faces. Pius est en train de dire, il a d'abord commencé par qualifier l'accord de la Saint-Sylvestre d'un accord suicidaire. Mais c'est trop fort mon cher ami Pius. C'est trop fort, alors reconnaissez, alors que le gouvernement Tshibala c'est un gouvernement suicidaire également, parce qu'il est issu de cet accord. Voilà. L'opposition ne veut pas les élections, ça c'est trop fort. L'opposition ne veut pas les élections. Non. Nous savons que s'il n'y a pas eu d'élection en 2016, c'est parce qu'il y a un pouvoir qui devait donner l'argent à la CENI, mais qui ne lui a jamais donné. Mettre ça sur les épaules de l'opposition sous prétexte qu'ils ont rejeté le calendrier public, ce n'était pas ça la raison. La raison principale, c'était le manque de moyens. Comment vous justifiez cela ? C'est l'absence de volonté politique. Le gouvernement Tshibala est là. Il va se battre, le pauvre, mais est-ce qu'il a le moyen de son pouvoir ?
Merci, Ernest.
Tshibala qui n'a même pas.
Merci,
qui n'a aucun ministère de souveraineté.
Merci, Dinanga. Ernest Mokouli, est-ce que Tshibala a les moyens de sa politique comme se demande Dominique Dinanga ? Il y a le quotidien Forum des As qui l'interpelle sur sa une en disant après le grand oral, Bruno Tshibala place aux actes. Donc il doit travailler. Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens de sa politique ?
Si on reste concret, c'est la même équipe qui n'a pas été à mesure de nous proposer les élections en 2016 qui continue là.
Exactement.
Bruno Tshibala, il est très minoritaire, à moins qu'il puisse se faire du miracle. Il peut prendre des décisions courageuses, comme venait de le dire Roland, et dire à la population, si vraiment il se réclame, encore il se reconnaît, la peau de l'opposition, des Genval, il n'a qu'à dire à la population, avant de prendre n'importe quelle décision sur les élections, s'il vous plaît, cette année, nous n'aurons pas les élections. Voilà les raisons. Comme venait de le dire Roland, il n'y a pas assez de certitude que Tshibala va créer des miracles. Peut-être que il y a des surprises que la majorité présidentielle va nous la proposer, mais sinon, Tshibala,
merci Ernest Mokouli. Nous allons passer à notre deuxième thème, évasion massive mercredi matin à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Qui sont les auteurs de l'attaque qui a occasionné l'évasion des détenus de Makala? Pour le ministre de la Justice, c'est en effet aucun doute que ce sont les adeptes de Bundu Diamayala. Ces derniers ont réussi à faire évader leur chef Nemwanda Nsemi, ajoute Alexis Tamoumamba. Toujours d'après lui, cette attaque a occasionné plusieurs décès, tant du côté des prisonniers que des gardiens. Et le ministre Alexis Tamoumamba n'avance aucun chiffre pour, dit-il, ne pas obstruer l'enquête. Il a été joint par Michel Kifindangoy.
Les Haïtiens de Nemwanda Nsemi ont organisé une attaque de la prison. Plusieurs parmi eux avaient des armes de guerre. Ils ont réussi à faire évader Nemwanda Nsemi et plusieurs prisonniers. Il y a eu un échange de coups de feu avec la police qui est commise à la surveillance de la prison. Plusieurs prisonniers sont dans la nature. Pour des raisons d'enquête, je ne donnerai pas le chiffre, mais il y a plusieurs évadés. Mais les services, aussi bien de renseignement de police, sont en train de faire le travail. L'alerte a été lancée à travers la ville et les routes environnantes. Les services travaillent. Donc, pour des raisons d'enquête, je ne communiquerai pas de bilan pour le moment.
Mais comment expliquer, monsieur le ministre, qu'une telle évasion ait eu lieu alors que le CPRK est l'une des prisons les plus sécurisées de la RDC?
Nous sommes en train de faire une enquête. Tous les services sont mobilisés. Pour des raisons d'enquête, je ne ferai pas une autre déclaration pour le moment. Mais je peux vous assurer que Nemwanda Nsemi est effectivement en fuite, que ce sont ces miliciens et nous avons des preuves matérielles sur pour pouvoir affirmer ce que je suis en train de dire. On a eu victimes notamment parmi les gardiens. Et il y a eu des victimes aussi de leur côté, donc nous avons des preuves. Mais tous les services sont en place et nous sommes sûrs que nous allons le récupérer.
Par ailleurs, 68 détenus sur les 74 pensionnaires de la prison centrale de Kasangulu, située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Kinshasa, se sont évadés ce vendredi 19 mai vers 1h du matin. D'après le député national Jean-Claude Mbouemba, qui l'a annoncé à Radio Okapi, les évadés ont simplement cassé les portails de la prison avant de s'échapper. Dominique Dinanga, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Top Congo FM, mettant à Kinshasa. Évasion massive à la prison centrale de Makala. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris cette information?
Ma réaction, en tout cas, ne peut pas être différente de celle de tout Congolais amoureux de son pays. Et c'est vraiment un étonnement. C'est un étonnement d'abord de ce qui s'est passé à la prison censée être la mieux sécurisée du pays. Je suis journaliste, je suis tenu à respecter certains principes, ne pas plonger dans ce dont je n'ai pas les preuves, mais vous n'allez pas m'empêcher de mettre un avis ou de pousser mon raisonnement.
Vous êtes libre,
ça n'engage que moi, ce que je dis. Je ne donne pas totalement tort à ceux qui disent que ça ressemble à un montage. Ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala et ce qui vient d'arriver la nuit dernière à Kasangulu, laissez-moi vous dire, je pèse bien mes mots, ça ressemble à un montage. D'abord, comment expliquer que le ministre, qui est incapable de nous fournir même les bilans des évadés, il ne l'a pas. Les bilans de ceux qui ont été récupérés par la police, il ne l'a pas. Mais il s'empresse quand même de dire qu'il s'agissait des adeptes de Bundu Dia Congo. Il a refusé de donner les bilans sous prétexte de raisons d'enquête. Il a dit que c'était pour des raisons d'enquête qu'il ne veut pas donner ces bilans. Quel rapport entre les bilans d'évadés, les bilans des morts et l'enquête? Ça, ça ne s'explique pas. Aujourd'hui, on dit tout simplement qu'il s'agit des adeptes de Bundu Dia Congo. Quelle preuve aujourd'hui a-t-on pour faire de telles affirmations?
Les ministres disent détenir des preuves.
Voilà, ça c'est un langage qu'il a eu, mais nous n'avons pas entendu ces preuves. Il a refusé de les donner, peut-être pour ces raisons. Voilà. Le ministre qui... il n'a pas donné le chiffre, c'est hier qu'il n'a pas voulu donner les chiffres, mais le premier jour, c'était avant-hier, bien, le 17, le ministre a donné un chiffre, il a parlé d'une cinquantaine...
D'évadés.
Pourquoi il s'est empressé de dire une cinquantaine d'évadés? Et plus tard, hier, le bourgmestre de la commune de Selembao, où se situe la prison centrale de Makala, qui vient donner le chiffre de 125 déjà récupérés. Il y a une cinquantaine d'évadés, mais on a déjà récupéré 125, à laisser comprendre quelque chose. La case qui va parler de 1000 détenus, 1000 à 2000. Vous comprenez un peu dans quel contexte
nous sommes. Merci. Donc, il y a cette guerre de chiffres.
Essayons un peu de voir aussi les contextes de cette évasion. Les gens qui viennent, un petit groupe, qui vient sur place, et avant d'entrer, au lieu de casser directement des portes, le groupe commence d'abord par brûler le véhicule et tout ce qui était là devant, pour alerter la police, et depuis tout ce temps-là, la police ne fait que dormir.
Merci.
C'est bon que vous compreniez.
Merci Dominique.
Comment travaille la police.
On a compris, comme vous le dites, ça ressemble à un montage. Pius Roland Romain, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA, émettant à Kinshasa. Beaucoup de zones d'ombre autour de cette évasion. Vous avez suivi, Dominique, Dinanga. Il y a même les explications du ministre de la Justice qui n'ont pas suffi, n'est-ce pas, à convaincre l'opinion. Comment vous réagissez à tout ça?
Je suis un compatriote. Je respecte beaucoup les institutions de mon pays. Je n'aime pas faire le show. Vous savez, les dossiers judiciaires sont tellement sensibles qu'il ne faudrait pas s'empresser.
Parlons des faits. Parlons des faits.
Je suis allé. Je parle dans le.
Parlons. Restons sur les faits.
Je parle.
Il y a évasion massive à la prison centrale de Makala, une prison hyper sécurisée.
Tout à fait. Ce n'est pas la seule prison où il y a eu évasion. C'est pas la seule prison. Vous savez, à l'extérieur, s'il faut faire la comparaison, c'est pas la seule prison. Et c'est là où il y a les éléments les plus dangereux. Et à cette étape. Moi, je veux vous donner. J'ouvre une parenthèse.
Alors, que dites-vous à ceux-là qui disent que ça ressemble à un montage?
J'en arrive. Accorde-moi une minute. En 2004, je suis dans le Congo central, à Boma. J'ai vécu personnellement le crime de cette secte religieuse contre tout citoyen qui n'aimait pas la vie spirituelle de cette secte. Enterré. Vivons. J'ai vu ça.
Et
je reviens pour établir, puisque il y a certaines institutions et certains organes de défense des droits de l'homme qui ont accusé l'État congolais de s'acharner contre cette secte. Et vous voyez les preuves.
C'est quoi les preuves?
Les preuves, j'ai entendu mon confrère qui a dit un petit groupe de gens arrive à la prison, brûle les véhicules. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Et s'il vous plaît, ils sont qualifiés de miliciens Bundu Diamayala.
Écoutez, quel est le prisonnier emblématique qui est sorti de la prison? C'est Zakari Badiangile, Némouandansemi. Et ceux qui sont allés là-bas, quand on parle qu'il y a eu montage, tous ceux qui sont aux alentours disent avoir vu le gens habillé en tenue de Bundu Dia Congo. Il n'y a pas eu de militaires, il n'y a pas eu rébellion, c'est ces milices qui les disaient, il y a eu des tracts qui ont été lancés. Le 17 mai, c'était le jour de la libération. Le 17 mai, nous allons libérer Némouandansemi. C'est un groupe, une secte politico-religieuse qui a des pratiques fétichistes.
Et donc, selon vous, les tracts ont été lancés, et cela veut dire que les autorités étaient au courant, n'est-ce pas, de cette opération? Pourquoi les dispositions n'ont pas été prises pour déjouer ces plans?
Écoutez, dans les prisons le plus sécurisé au monde, les dispositions sont prises. Il y a des caméras là-dedans. Mais on arrive toujours à déstabiliser. C'est là
Merci.
Où il y a des criminels.
Merci.
Je vous ai dit, Ernest accordez-moi Mokouli. Les mêmes minutes. Que
vous avez assez parlé. On n'a pas tout le temps,
oui,
malheureusement.
Vous m'avez interrompu.
Les bilans. Ernest Mokouli, journaliste correspondant de l'AFPIC Sangani, province de la Tchopo. Les uns disent que ça s'apparente à un montage. D'autres disent que c'est un plan machiavélique monté par les miliciens Bundu Diamayala. Ça peut être quoi, à votre avis, les dessous des cartes de cette invasion massive?
Non, de questionnement à ce sujet. D'abord, pourquoi le lendemain de la prise du pouvoir de Bruno Tshibala, que cela se passe? Pourquoi la veille, la nuit, c'est pas du printemps, la fête du 7 mai? pourquoi seulement Némoïna Sébi qui doit réviver? Par quel moyen, quel arsenal ils ont pu utiliser pour réussir ces coups? Il y a plein de questionnements et les réponses qui restent encore. À mon humble avis, ne pourra pas nous éloigner à un truc artificiel. Comme on le dit, attendons les enquêtes, mais ce n'est pas les premiers coups, les premiers faits qui poussent les autorités à nous promettre la fin des enquêtes. Mais je crois bien, de par la technologie moderne, de par le professionnalisme et les progrès que nos services de sécurité ont connus depuis peu, et je crois bien les pouvoirs publics devaient nécessairement dire entre peu de mots le lendemain déjà dans la situation. Nous attendons les enquêtes pour proposer le bilan provisoire et qu'on doit nous soumettre à l'issue des enquêtes juste pour le bilan provisoire, ça croit qu'un peu.
Et Ernest Bokouli, nous sommes à la fin de cette émission, nous allons conclure. Les évasions, n'est-ce pas, c'est pas une première ici à Kinshasa. Il y a eu plusieurs évasions à la prison centrale de Makala, il y a eu plusieurs évasions dans beaucoup des prisons à travers les pays. Ce matin à Kasangulu, que faut-il à votre avis pour sécuriser les prisonniers en RDC afin que l'on soit en mesure de prévenir ce genre de situations?
Bon, il faut investir dans les infrastructures pénitentiaires de notre pays. Il faut investir, mais il y a aussi les gens qui sont commis à la garde de ces installations. Il faut investir aussi pour dire la vérité aux gens. Il faut investir aussi, surtout, pour respecter les droits à l'information. Une pareille évasion spectaculaire n'était pas plonger la communauté et les pays dans les noirs parce qu'on attend l'issue des enquêtes. Je crois bien qu'il faut investir aussi dans la prise en considération de l'importance de l'information quand il s'agit d'un pareil cas.
Dominique Lindanga, c'est quoi la solution? Maintenant qu'il y a eu cette évasion, on apprend que la plupart de ceux qui sont partis sont des criminels de grand chemin qui peuvent contribuer à la hausse de la criminalité dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce faut-il faire? La solution, c'est quoi?
C'est ça le grand danger que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Ne soyez pas surpris qu'il se crée encore un autre foyer de tension. Je ne le souhaite pas, mais ne soyez pas surpris parce que quand un millier de personnes sortent comme ça et se rendent à destination inconnue, on ne sait pas les situer pour le moment.
Et qu'est-ce que vous préconisez?
Ce que je préconise, voilà. Le confrère a donné une partie de la solution. Il faut commencer d'abord par sécuriser ces prisons. La prison centrale de Makala a été construite pour 1500 détenus. Aujourd'hui, il y en avait combien avant cette évasion? 7500 selon les estimations du gouvernement. C'est déjà un grand danger. Combien sont dans cette prison-là et qui n'ont jamais vu un jugement bien prononcé? Ils sont très nombreux, je peux même dire plus de la moitié, qui sont là en train de croupir en prison depuis plusieurs années, sans jugement, sans procès équitable. Ça, c'est un grand danger. Le confrère a dit qu'il faut investir aussi dans le personnel qui s'occupe même de la sécurisation de cette prison. Ils sont payés combien? Où étaient tous ces policiers que nous voyons déployés souvent dans des routes de Kinshasa quand il y a des manifestations de l'opposition? Ils sont forts pour réprimer des manifestations de l'opposition, mais incapables de sécuriser la prison, l'une, donc la plus grande du pays.
Merci.
C'est honteux.
Sur Roland Romain, c'est quoi la solution à votre avis? C'est votre conclusion si nous sommes à la fin de l'émission.
J'estime qu'il faut détruire cette prison.
Il faut détruire la prison.
Il faut détruire, faut la délocaliser. C'est inadmissible qu'une prison se trouve entourée de la population qui vague. Au fait,
est-ce que ce ne sont pas les populations qui sont venues s'établir autour de cette prison?
Justement, puisque lorsque cette prison a été construite, Kinshasa s'est limité, je pense, au niveau de Kankokoro.
Et donc l'une des solutions, c'est délocaliser.
L'une des solutions, il faut délocaliser la prison. Il faut qu'il y ait, de ne pas d'abord appeler prison. On l'appelle centre de rééducation.
L'autre solution,
c'est qu'il faut renforcer la capacité humaine des gens commis à la sécurisation de la prison. Pourquoi je le dis? Puisque les policiers qui sont là, ce sont les êtres humains. Face à une arme, l'arme ne va pas désigner un civil et un policier.
Merci.
Ça va. Il faut la solution la plus meilleure, il faut délocaliser la prison, doit aller plus loin de Kinshasa, plus loin de Kinshasa, et que la prison ne soit pas un lieu de torture.
Et investir dans l'homme.
Dans l'homme
qui est chargé de sécuriser la prison.
Merci. Et quand même, puisque Nelson Mandela a étudié en prison, il a acquis la connaissance en prison, il ne faudrait pas quand on sort de la prison,
on soit radicalisé. Merci.
C'est un centre de rééducation.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Bob Landou qui était à la technique, et à Béry Franklin qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelle Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci, à la semaine prochaine pour un autre numéro de Tribune de la Presse. Bon week-end sur Radio Capitole.